vous dites, l'idée, c'est de la poursuivre conjointement avec l'ensemble du public réuni. Voilà. Et puis, on va essayer d'aller vers l'écriture. Hein. C'est toujours ça l'objectif de ce temps de rencontre professionnelle pour nous, Minoterie et Vapeur. C'est d'aller vers la rédaction d'un appel à projet qui pourrait être au plus près des besoins, des attentes de chacun des partenaires. Hein. Et qui puisse être constitué sur la base vraiment d'un partenariat aussi de ceux qui proposent, hein, en direction des artistes. Voilà. Donc ce matin, on va commencer juste, on profite, et on le remercie, de la présence d'un des deux interprètes du spectacle qu'on a vu hier, que beaucoup d'entre vous ont vu hier, en tout cas à la Vapeur. Voilà, c'est Guillaume, il est là. Merci d'être resté encore avec nous. On va se poser, puis on va profiter de ce spectacle et... En fait, à travers le spectacle, si tu veux bien, on va un peu interroger l'histoire d'où ça vient, comment ça se passe pour un musicien comme toi, d'arriver à faire des propositions en direction de la jeunesse. Est-ce que c'était prévu comme ça? Est-ce que c'était exclusivement prévu comme ça? Est-ce qu'il y a eu des accidents de parcours qui ont fait que vous vous êtes retrouvé à jouer devant des publics jeunes? Ouais, c'est toujours un peu les questions, mais c'est riche d'enseignements de savoir un peu les itinéraires très concrets de certains spectacles, comme celui qu'on a vu hier. Donc on va se poser là, carrément.
Allons-y.
J'ai préparé, le temps que tu t'installes, j'ai préparé des plaquettes. Je ne fais pas ma pub, mais c'est une plaquette qu'on distribue à tous nos acteurs responsables de groupe et de collectivité, tout ça, parce que ça raconte de façon très simple et pédagogique l'activité de la maison ici. En bleu, c'est toutes les résidences que nous recevons avec les sorties de résidence. En rouge, c'est la programmation de spectacles aboutis. Et en vert, c'est toutes nos activités d'éducation artistique. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez en prendre. Elles sont là. Bonjour. On va prendre les petits micros, peut-être. On prend les petits micros ?
On n'est pas loin, là. Je ne sais pas.
Enfin, c'est pour le confort de la voix. Voilà, Firmin Hector, croque-mort chanteur, c'est le sous-titre. Voilà, donc si tu veux bien, on peut, si on veut dire deux mots sur le spectacle, mais on va le dire forcément à travers notre entretien, on a un petit peu de temps devant nous pour essayer de voir d'où ça vient un projet comme celui-là, comment ça s'écrit, quelles sont les rencontres avec les autres langages du plateau, comme la lumière, comme le décor, les costumes, tout ça. Voilà. Peut-être tu peux nous dire un peu la genèse du projet, qui vous êtes aussi, tous les deux interprètes. Voilà, merci.
Bonjour, déjà, je suis content, enfin, c'est sympa d'être ici pour parler de ce genre d'expérience. Donc le projet, il a débuté tout d'abord par la création d'un spectacle tout public. On s'est rencontré avec Valentin, le deuxième, au Conservatoire de Strasbourg en 2014. On écrivait des chansons un peu tristes et on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait les faire jouer par des personnages encore plus tristes pour les rendre peut-être poétiques et un peu drôles. Et c'est là qu'on a créé ces personnages de croque-mort, voilà, donc en 2014. Au sein d'une classe de cabaret du Conservatoire de Strasbourg. Voilà, c'était une option, à côté du cursus jazz qu'on faisait tous les deux. Et on a rencontré une personne qui s'appelle Marco Locci. Alors Marco Locci, il a un parcours assez improbable. Il était à la Comédie Française, il a été cascadeur au parc Astérix. Il était bouquiniste sur les quais de Marne. S'il a fait encore, il était croque-mort aussi. Voilà, je sais pas, c'est peut-être ça qui nous a réunis. En tout cas, c'est un personnage haut en couleur et qui nous a donné confiance pour aller sur le plateau, parce qu'en venant du jazz, effectivement, c'est pas forcément prendre la parole sur scène. C'est pas forcément évident. Voilà. Donc on s'est lancé avec lui dans cette aventure. On a écrit le premier spectacle qui s'appelle Chronique d'Outre-Tombe en 2015. Et en mars 2015, on jouait pour la première fois sur un plateau.
Pour le jeune public aussi ?
Non.
D'accord.
À l'époque, je pense qu'on était vraiment trop jeunes pour envisager faire quelque chose. D'accord. C'était encore trop proche de nous, je pense. c'était quand même il y a 6 ans, quoi. Valentin, il avait à peine 22 ans, quoi. Voilà. Donc on a fait ce spectacle et on l'a traîné un petit peu partout en France, on l'a encore joué cette année. Hein. On avait une autre personne au sein du Conservatoire de Strasbourg qui un jour nous a dit « Ce serait génial que vous fassiez ça pour les enfants. » On n'a pas très bien compris. Parce que c'est vrai, des croque-morts pour les enfants, déjà que certains adultes avaient un peu du mal, des fois. On s'est dit « Tiens, ça va être un peu... » difficile. Et puis Valentin, c'est vrai qu'il avait une certaine appréhension aussi à s'engager là-dedans. Il n'avait pas envie d'être cloisonné. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'en allant dans une voie, les gens nous catégorisent, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Voilà, mais moi, en tant que... Parce que je suis un peu plus le gestionnaire du projet. Valentin, lui, il aime bien tout ce qui est artistique. Voilà, et moi, je m'occupais un peu de tout le reste, la diffusion, la communication, la production, la logistique, voilà, tous ces aspects. Et je me suis dit, tiens, pour développer le projet, comme déjà pour les chroniques d'Outre-Tombe, j'avais envoyé plein de dossiers à droite à gauche, et que je sais pertinemment que quand on envoie 100 messages, on a à peu près une réponse. Je me suis dit, ben, pourquoi pas répondre à cet appel à projet qu'on nous avait soumis, qui était un appel à projet de Jeunesse Musicale de France. Voilà, donc j'ai écrit un dossier, voilà, mais c'était pas, comment dire, je trouvais ça pertinent quand je l'écrivais, c'était pas...
Ça existait encore pas, quand tu as répondu à l'appel à projet, le projet n'existait pas encore.
Il n'existait pas encore, il y avait Firmin Hector qui existait, mais pas encore la version jeune public, j'ai répondu à cet appel à projet, et tout d'un coup on était pris aux auditions régionales, en ce dimanche.
Alors, ouais. Tant que je comprenne bien, Firmin Hector existait dans la version qu'on a vue hier soir.
Non, c'est un autre spectacle avec les mêmes personnages.
Ah, ok, d'accord.
En fait, c'était vraiment, on a vraiment recréé un nouveau spectacle.
C'est après les Chroniques d'Outre-Tombe. Ça, j'ai bien suivi. D'accord,
voilà.
Ok. Pardon.
Et du coup, voilà, on a été pris, on a passé les auditions, on a encore été pris, et tout d'un coup, on s'est retrouvé aux auditions nationales, et ce jour-là, c'était rigolo parce que. Monter sur scène et on a joué une chanson. Après, il y a eu une panne technique, mais ça nous a un petit peu aidé parce qu'on aime bien interagir avec ce qui se passe. Et finalement, après, on s'est retrouvé à faire tout d'un coup 100 dates du spectacle avec les JMF, à jouer dans des festivals qui avant ne nous répondaient pas. C'est vrai. Il y a par exemple le festival Momix, quand on leur a dit qu'on était dans les JMF, je leur écrivais depuis des années. Et tout d'un coup, j'ai eu une réponse. Mais je trouve que c'est normal, voilà, il y a cet effet de cooptation, parce que le nombre de sollicitations qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas non plus répondre à tout, donc voilà, les JMF nous ont permis de passer à travers le filtre. Et voilà, à travers Momix, on a rencontré Trafix Musique, voilà, qui s'occupe aujourd'hui aussi de la diffusion du spectacle, et un peu cet effet d'entraînement, les boules de neige, la SACEM qui nous a soutenus aussi. Et voilà, on a créé le spectacle comme ça. On va dire on un petit peu plus au niveau de la production. Là, je parle vraiment plus de la production. J'ai quasiment pas parlé de l'artistique.
Mmh. Voilà. Et là, ce détournement par les autres de votre spectacle au niveau du destinataire, ouais. Il n'a pas opéré de détournement sur l'artistique. Ça vous a fait quel effet vous avez joué la même chose, vous avez interagi différemment avec le public, vous avez amené autre chose dans le projet artistique du fait de la population en face.
Mmh. Ou... Oui, clairement. On a déjà la manière dont on a construit le spectacle au niveau des différentes étapes. En fait, on est allé dans un établissement régional d'enseignement adapté à Ilkirch-Grafenstaden, pour ceux qui connaissent. Non, personne. Voilà, c'est au sud de Strasbourg. Et là-bas, c'est un public qui a des difficultés d'intégration sociale mais qui est très, très spontané. Mm-hmm. Trop spontané pour l'équipe encadrante, mais pour nous, eh ben, c'était très bien parce qu'il n'y avait pas de filtre. Mm-hmm. Voilà. Donc on a passé quelques jours, je dirais même quelques semaines là-bas, pour en fait voir ce qui se passait quand on leur proposait notre spectacle, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attention et que finalement nous on commençait à vraiment prendre plaisir à jouer devant ce nouveau public, voilà. Mm-hmm. Un public qui qui a rien à voir avec le tout public, enfin plutôt les salles qu'on avait habituellement, un public très réceptif, dynamique, alors que souvent dans les salles de tout public c'est un peu plus feutré, un petit peu plus calme, et on a pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Par exemple, le côté participatif qui existe à plusieurs moments dans le spectacle, est-ce qu'il existait déjà autant dans la version tout public, ou est-ce que vous avez trouvé d'autres occasions de faire interagir le public sur le concert?
Ben on a trouvé de nouvelles occasions et on ne le faisait quasiment pas avant. Ouais, voilà, et voilà, c'est des choses qu'on a pris plaisir à intégrer. Mm-hmm. Ouais. Et du coup, on a créé avec cette area le spectacle. On est aussi allé voir d'autres enfants dans des établissements un peu plus comment dire, des établissements un peu plus banals, je dirais normaux, où les enfants n'avaient pas...
Ordinaire,
voilà.
C'est le mot qu'on utilise dans l'éducation nationale.
Ouais, voilà. Et pareil, on faisait des tests, en fait, on a testé le spectacle, parce qu'on s'est dit, franchement, si on monte 45 minutes de spectacle, on met tout en œuvre pour avoir un spectacle abouti, et qu'à la fin, on se retrouve face à des enfants, et que ça ne marche pas, ça sert à rien. Voilà. Donc on aime bien, dans notre processus de création, intégrer à des étapes qu'on estime un peu charnières, des regards extérieurs, pas forcément le metteur en scène, parce qu'à un moment on est un peu dans notre bulle. Et donc vraiment intégrer les destinataires du projet au projet. Quoi.
Y compris les récits entre les chansons, tout ça, ça existait déjà? Ou est-ce que le lien que vous faites de cette histoire qui s'écrit du grand-père, du père, de la grand-mère et tout ça, est-ce que ça s'est écrit aussi en lien avec le fait que vous alliez raconter, faire un plus qu'un concert?
Oui, en fait, l'histoire de Firma Hector, la maman, le papa, tout ça, ils existaient déjà dans le tout public. Mais là, ça nous a permis d'aller plus loin. Nous, c'est ce qu'on aime bien. On a fait un livre-disque aussi, mais c'était pour aller plus loin. On n'a pas du tout fait le spectacle dedans. On s'est amusé à créer un reportage radiophonique où on fait intervenir un client chez Firma Hector. Donc, il y a toute l'ambiance sonore et donc il y a une autre histoire qui se crée. Et on aime bien aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Et ce projet jeune public, c'est des éléments tirés du tout public, mais...
D'accord. Il y a une question qui traverse un peu nos débats depuis hier aussi, j'ai envie de te la poser, c'est... Il y a une formule qui dit c'est qu'un concert, et on ne fait qu'un concert. Est-ce que pour toi, il y a une nuance entre un concert et ce que vous faites? Est-ce qu'elle est... Comment dire? Je pose très mal la question parce que je cerne mal, en fait, ce qui se cache derrière ce que-là. Est-ce qu'on peut faire qu'un concert? Est-ce que ça existe pour toi, cette idée qu'il n'y aurait qu'un concert et que tout ce que vous avez fait hier, c'est un spectacle qui a nécessité d'autres chemins que celui de la musique, quoi. Je ne sais pas, c'est mal posé. Non, ça va.
C'est clair, je pense. Justement, on s'est confronté à cette question. Et pour revenir justement du monde de la musique, qu'un concert, pour moi, c'est des instruments avec des gens derrière. Il n'y a pas besoin forcément de lumière, il n'y a même pas besoin de scène. Enfin, un petit espace dédié où il y a une petite délimitation et encore.
Ça existe encore.
Oui, enfin, ça existe encore.
Dans le monde de la musique avec un public, oui. Ça existe encore concerts comme ça?
Bah oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de développer tout le reste. Et notamment aujourd'hui, dans les problématiques de vente des spectacles, de financement des résidences, tout ça, la production, c'est devenu une nécessité pour certains. Parce qu'on se rend. Enfin, parce que moi, j'ai pas de projet comme ça en ce moment, et j'entends beaucoup les copains en parler. Quand on arrive avec un projet musique actuel, parce que c'est vrai que les concerts, enfin, les gens que je côtoie, ils sont principalement là-dedans, musique actuelle ou chanson française, voilà, quand on demande à la DRAC, la ville, la région, des sous, voilà, ça marche pas, ça marche plus. Enfin, c'est très très compliqué. Voilà, au niveau des salles, c'est pas évident non plus. Donc, on revient à des trucs très 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 simple, des formules duo, même du solo.
Oui, mais du coup, dans ton discours aussi, je ressens ça la même chose. C'est-à-dire que ça pourrait sous-entendre ce que tu dis, que ça, on ne fait plus que de la musique, quoi, dans ces moments-là. Nous, par exemple, on fait. Enfin, moi, je suis un homme de théâtre, donc c'est un peu. Je fais exprès. C'est des vraies questions. Mm-hmm. Mais nous, quand on fait du théâtre dans une salle de classe, par exemple, mm-hmm. on fait encore du théâtre. Simplement, oui. On se questionne sur l'espace. Évidemment, on ramène pas des rideaux noirs, des projecteurs, mais on essaie de trouver l'acte théâtral organique, adapté au lieu dans lequel on le fait. Et quand il y a du théâtre en salle de classe, on l'assume. Cette salle de classe, on l'assume, mais on fait encore du théâtre. Ça ne semble pas être. Vous voyez, on n'a pas une formule restrictive qui dirait que c'est du sous-théâtre. Alors bien sûr, c'est pas la boîte noire avec la concentration des regards de tous les publics, les effets de lumière, on est d'accord, hein, c'est autre chose. Mais c'est une miniature de théâtre quand même, quoi.
Oui, ben, je suis d'accord. Oui, ben, sous l'angle de la formation, on va dire, ou de ce dont on s'est nourri dans notre pratique artistique, effectivement, quelqu'un qui fait du théâtre, il amènera toujours le théâtre avec lui, et quelqu'un qui fait de la musique, il amènera toujours cet espace de concert avec lui. Mais ça dépend vraiment de chacun. J'ai des copains en jazz qui sont incapables de dire un mot à un public. Donc eux, c'est vraiment, je fais un concert, j'enchaîne les morceaux et me demandez même pas d'essayer de faire quelque chose. Voilà, je suis un musicien.
Et c'est ça qu'on appellerait qu'un concert, par exemple.
Voilà. Juste okay. Pour, si je peux me permettre, je crois que hier on a parlé de la forme que concert. C'était pas le que négatif, c'était. Oui. N'oublions pas de parler aussi dans la création jeune public musical des formes où c'est la musique et seulement la musique sans scénographie, dramaturgie. Et c'était juste parce que ça sortait un peu, je pense, du débat et qu'on défend ça nous aussi dans les salles de musique actuelle. Le spectacle jeune public peut être seulement des musiciens sans raconter une histoire, etc. Voilà. Il y a aussi cette forme-là. C'était pas à prendre négativement, je pense.
Non.
Bah, c'est ce que font encore les JMF. Et c'est ce que faisaient davantage les JMF, enfin à ma connaissance, hein, il y a 10-20 ans, c'est qu'en fait, ils faisaient principalement venir des musiciens de musique classique dans les écoles, justement pas dans les théâtres nécessairement, mais dans des... Et ils venaient et jouaient le répertoire, voilà. Donc c'était confronter les enfants à la musique classique, et là, effectivement, peut-être qu'on a on a affaire à un concert, vraiment un concert.
Et toi, cette démarche, du coup, que vous avez traversée avec les enrichissements, y compris les condamnations à jouer devant le jeune public et tout ça, au final, c'est du plus que tu qualifierais, enfin tu le détaillerais comment ce plus-là par rapport aux musiciens que vous étiez au départ, qu'est-ce que toute cette démarche-là, ces rencontres, ce creusement du texte, de l'interaction avec le public, d'être un peu plus comédien finalement aussi, enfin même beaucoup, puisque narrateur, conteur, tout ça, est-ce que c'est des plus pour toi, est-ce que c'est le prix à payer pour pouvoir échapper à, enfin, ou trouver une forme spectaculaire plus vendable, voilà, je sais pas, je fais exprès de provoquer un peu ces questions-là.
Je sais pas si c'est plus vendable ou pas, mais effectivement, si on a un chanteur, un musicien, un homme de théâtre seul sur un plateau, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de... Comment dire, on a pas besoin d'agrémenter et de mettre des effets supplémentaires pour rendre la chose plus vendable. Je pense que quand le propos il est là et que... une forme de sincérité, c'est quelque chose qui se ressent et qui passe. Moi, j'ai toujours eu cette envie en fait de parler sur plateau. Je me trouvais souvent bloqué derrière mon accordéon. Ouais, j'ai commencé le théâtre très tard, je sais pas, à 24 ans, le chant à 24 ans aussi. Voilà. Donc, mais avant, je faisais que de l'accordéon. Mais j'étais un peu bloqué derrière ça et ça m'a vraiment permis de me libérer et de me sentir à l'aise. Et voilà, et j'ai l'impression que même, parce que souvent je vais à des concerts de jazz, et c'est vrai, des fois il y a la musique qui est super, mais quand le mec il sait parler au milieu, ou
s'adresser un peu au public,
ça fait du bien, quoi. Non, mais c'est juste ça, tiens, il y a un humain derrière. Je suis allé voir un jour Keith Jarrett en concert. Je ne sais pas si vous connaissez un monstre du piano jazz, voilà. Il venait des États-Unis et il venait à Strasbourg, je suis allé le voir. Et c'était très étrange, hein, parce qu'on avait l'impression d'assister à un film. Il déroulait et ben, c'était bien, la musique était super, mais il manquait ce petit côté humain. Et je pense que sans vouloir trop théâtraliser la chose, mais rien que créer une interaction et faire que les gens se sentent à l'aise avec les gens sur le plateau, ou juste qu'ils expriment une petite sympathie, ben, c'est super.
Ouais.
Et je l'entends encore beaucoup avec des copains du conservatoire qui, eux, ont été... j'ai envie de dire peut-être un peu cloisonné, bon, c'est ce qu'ils me disent. Hein,
on reviendra tout à l'heure sur toutes ces questions-là avec la table ronde qui suit. Ouais,
dans des pratiques artistiques très pointues, élitistes, oui, un petit peu. Ils ont du mal à sortir de ça et ils se sentent bloqués, voilà. Et ils aimeraient bien de temps en temps pouvoir dire deux, trois choses sur le plateau et pas devenir tout rouge.
Les gens du théâtre, on est très impressionnés, on est scotchés quand on voit des performances comme hier, où vous êtes avant tout et ô combien musicien, parce qu'il y a une grande qualité d'interprétation musicale, et en même temps il y a une vraie présence au plateau, il y a une vraie dramaturgie, il y a une histoire qui se raconte, il y a des belles choses qui s'entendent sur le silence, la musique, le bruit, il y a aussi tout un propos qui navigue à travers tout ça, et donc bon, voilà, c'est, je sais pas, on dirait que ça s'est augmenté, mais pas au sens de cocher des cases en plus pour faire comment disait plus vendable, mais ça s'est augmenté au niveau de du propos artistique. Il y a une puissance de feu qui est du coup réunie. Et bon, je ne sais pas si les comédiens peuvent en aussi peu de temps que vous devenir musiciens, ça m'étonnerait. Quand vous vous mettez à travailler le jeu, en tout cas, vous avez quelque chose de plus qui est magnifique, quoi.
C'est parce qu'on a envie, surtout. C'est ça. Au début, on avait peur. Enfin, Valentin, il avait terriblement peur. Je ne sais pas, il devait me faire confiance et qu'il devait se sentir bien en présence de Marco. Et voilà, on avait envie de le faire, c'est surtout ça, quoi. Et on avait quand même les premières années du projet, c'était des années de formation, mais on était sur scène à se former face à un public.
Oui, c'est
et ça. ça nous a appris, c'était extraordinaire. Je crois qu'on a passé 2 mois à Paris à ramer. On s'était dit, allez, on va à Paris, on va faire pendant 2 mois, on va jouer le spectacle. Et en fait, on est allé à Paris et c'était. Ouais, c'est vraiment l'expérience la plus dure de ma carrière professionnelle. Mais ouais, c'était des salles où on ne savait pas combien il y allait avoir du monde le soir. Et en plus, le public parisien, je ne sais pas s'il y a des Parisiens. Mais et voilà, je dirais. Mais ce n'est pas forcément facile. Hein, c'est, voilà. Et voilà, il y a une très grande concurrence. Voilà, c'était pas évident. Quoi. En plus, il y a des contraintes financières qui s'ajoutent. On s'en est bien sorti quand même. Mais effectivement, pendant 2 mois, et au bout de ces 2 mois, on était. En fait, oui, c'était notre formation.
Notre école, oui.
Ouais, notre école, mais on s'est dit, effectivement, il faut passer par le plateau. Et c'est comme la musique. Moi, la musique, j'en ai fait pendant 20 ans dans des concours de musique. Je faisais de l'accordéon dans des concours de musique régionaux, nationaux, tout ça. Alors, on gagnait des médailles, c'était bien. On arrivait dans une salle, on était, 20 accordéonistes. Il y a une lettre qui était tirée au sort. Et après, il déclinait l'ordre de passage en fonction de la lettre qui était tirée. Donc moi, je m'appelle Schler. Un jour, ils ont tiré le A. Donc j'ai écouté tous les accordéonistes jouer avant moi le même morceau. Quoi. Et c'était assez dramatique. Donc je suis arrivé, moi, j'avais plus d'énergie. Quoi. Et le public, à la fin, n'avait pas le droit d'applaudir non plus. Et on était justement là, face à un jury. Et voilà, moi, ça a été ma formation pendant 20 ans. Mmh. Et au bout de 20 ans, je me suis dit, j'avais peur de jouer en famille, j'avais peur de jouer avec des amis, j'avais peur, en fait, là, c'était devenu une source de stress. Et en arrivant au conservatoire, je me suis dit, si j'arrive pas à me débarrasser de ça, c'est pas la peine. Mmh. C'était une forme de souffrance, on peut dire ça comme ça. Mmh. Et le conditionnement de la formation initiale, j'ai dû sortir de ça. Et après, en rencontrant justement Marco Lucci, toute cette logique de décloisonnement, c'était une grande.
Oui, justement, je voulais revenir là-dessus. C'est juste que tu dis qu'on fait son école là où on peut et comme on peut. Il y a plein d'expériences et elles sont souvent toutes bonnes à prendre. Elles sont riches d'enseignements. Et il y a un moment, il y a du coaching d'acteurs quand même.
Mm-hmm.
Comment ça procède avec ce coach extérieur? Comment ça procède votre travail? Il reprend des bouts du texte, il vous pousse à aller plus loin sur la parole au public. Comment ça a travaillé avec ce regard extérieur?
Au départ, on est parti de la base. Hein. On était vraiment partait de zéro, quoi. Donc c'était simplement supprimer déjà l'éthique du corps, quoi. On savait pas quoi faire de nos mains, mais ça c'est vraiment quelque chose de très basique.
D'amateur.
Donc on est parti de là, juste ancrer ses pieds dans le sol et être bien là en présence et se sentir là, juste et posé, c'était déjà quelque chose, quoi. Donc on a commencé par ça, c'était vraiment là-bas. Et après, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, il nous a mis en sécurité sur le texte. Il n'a pas cherché à nous faire des choses extraordinaires, des choses très simples. Et chaque fois, il validait comme ça par couche. On ne s'en rendait pas forcément compte, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'un peu de recul. Mais on se laissait vraiment diriger et c'est ça aussi, on avait confiance en lui. Donc ça, c'était très très important. Et il rajoutait des couches. Après, il y a forcément eu ce passage par le plateau. Quand on était sur scène, donc lui, il était là. Après, il nous faisait des débriefs. Et ensuite, il y a aussi notre une fois qu'on s'en laisse là-dessus, il y a notre propre sensibilité qui prend le relais. d'un coup, on commence à se rendre compte qu'on aime qu'on prend plaisir à interagir avec les gens, que ça nous fait plus peur que tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui se mette à crier au milieu de la salle, ou qui descende en faisant du bruit.
Donc, quand tout le monde dit oui.
Voilà, ce genre de choses, yeah. Et en fait, on commence à s'amuser avec. Et c'est là que naît la notion de jeu. Mm-hmm. Voilà, c'est ça aussi. Hein. J'avais pas compris ce que ça voulait dire dans la musique aussi, jusqu'au conservatoire. Mais et vraiment, jouer, quoi, s'amuser, c'est essentiel. Et au fur et à mesure, comme ça, il revenait. Après, les représentations s'enchaînaient davantage, donc il n'était pas là tout le temps. Il revenait de temps en temps pour pointer les choses qui n'allaient pas. Et il nous disait aussi qu'il voyait les choses progresser. Et c'est ce travail de plateau, ensuite, qui a vraiment fait progresser les choses. Et on a aussi pris un temps vraiment juste de travail, parce qu'on était toujours un peu dans l'urgence de la création. Toujours à se dire, oui, il faut créer, parce que, je sais pas, il y a la résidence de création qui arrive, il y a la première date qui est là. Et une année, on a eu le temps, pendant une semaine, de pas penser à être productif. Et on est allé dans un petit village du Sungo, c'est au sud de l'Alsace, voilà, où il n'y a pas grand monde à part des vaches. Et une maison de famille là-bas, et on s'est enfermé dans un grenier pendant une semaine. Et là, il a vraiment fait un travail plus en profondeur, quoi. Et c'est vrai que là, enfin, on est sorti de là, on était lessivés, mais ça avait agité des choses. Enfin, c'était vraiment pas facile, quoi. Mais on n'avait pas d'échéance derrière, donc on avait le temps aussi de digérer tout ça. Et ça, dans le temps de la création et les problématiques qu'on a en ce moment, allez, il faut que je fasse mes heures d'intermittent. Enfin, on a plein de contraintes qui sont pas celles forcément de l'artiste. Et ben, ça nous a fait vraiment, vraiment du bien. Et ça nous a fait énormément progresser aussi. Hein. Voilà.
Très bien, mais c'est un peu ce qu'on se disait hier sur les temps qui s'ajoutent et qui sont nécessaires à faire une œuvre plus totale et plus complète. Les temps qui s'ajoutent, que ceux de la mise en scène, de la direction d'acteur. Et là, c'est vite fait, on a encore 2 minutes. J'ai pas de chrono avec moi.
Non, ouais. 10 minutes.
Alors, on va essayer de pas dépasser pour se mettre en retard sur le reste de la journée. Et la scène, c'était déjà dans le projet, vous l'avez amené aussi ça au regard extérieur, les tombes, tout ça, c'était déjà là, l'orgue à son, tout ça, le piano toy, tout
pas,
ça.
Pas du tout, en fait, pour le premier projet, c'était vraiment de manière assez empirique, on ne savait pas, en fait, c'est pas très clair encore le rôle de chacun sur une production théâtrale, donc mon ancienne compagne, elle était... costumière, donc c'est elle qui a fait les costumes. Donc finalement, c'était, je ne vais pas en dire assez facile, mais effectivement, elle, c'était son métier, donc elle savait vraiment. Et elle s'est occupée aussi de la scénographie qui était vraiment très très simple. On avait juste une table comme un hôtel en fond avec une jupe de cercueil dessus et un instrument, un harmonium qui jouait aussi dans le spectacle. Donc ça, c'était très simple. On n'a pas réfléchi vraiment par poste. C'est arrivé comme ça, quoi. C'est vraiment. Première expérience. Et là, avec le recul, j'avais besoin d'avoir quelqu'un à chaque poste, justement pour aussi qu'il vienne enrichir par son regard notre univers. Et là, on a retravaillé avec Susan Micha qui a fait la lumière, qui était là. Voilà, qui a une vision enfin, qu'on aime bien, qu'on partage, donc ça marche bien. Et on a justement fait appel à une scénographe, pour le coup, qui était, voilà, c'était vraiment son métier. Et je ne sais plus comment on est arrivé à ces tons, mais à un moment, on s'est aussi dit que c'était... Enfin, c'est par rapport à la réflexion sur la mort et la manière justement dont on veille les gens, dont on a ce rapport au cimetière aussi. Parce qu'effectivement, c'est vrai, quand on va dans un cimetière, on marche que sur les allées, voilà. On va dans les allées plutôt. On va rarement sur les tombes. Et voilà, d'un coup, on a eu cette vision de se dire, tiens, si on sautait sur les tombes.
Voilà. Ils vont cracher des fois sur les tombes aussi.
Ouais, voilà, mais on s'est dit que c'était peut-être encore un peu tôt. On s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas la fête dans un cimetière. Et après, effectivement, moi, j'aime bien. Je sais pas, quand j'étais petit, je me souviens, je voyais des concerts, il y avait plein d'instruments sur scène et je savais jamais à quoi ils allaient servir. Et au fur et à mesure, ils arrivaient, ils produisaient un nouveau son. C'était quelque chose d'assez magique pour moi. Même si on voyait l'instrument, on savait pas comment il allait être utilisé. Et là, on est un peu parti sur ce même principe. On s'est dit, on va cacher des instruments dans les tombes. On va même pas les voir et ça va quand même produire du son et on va pas très bien comprendre comment ça s'articule. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait créer une sorte de petite magie comme ça, voilà.
Okay.
Voilà, et voilà, le super. Cimetière, les tombes, la kermesse, voilà. Et après, il y avait des inspirations un peu de certains films, le cabinet du docteur Caligari, mm-hmm. voilà, sur ces proportions un peu étranges, voilà. Après, on nous a dit aussi, on nous a parlé de Tim Burton, alors je connaissais pas, du coup je suis allé voir.
Ouais. Et... L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà,
ce genre de choses, et du coup on, voilà, on s'est inspiré de plein de choses, et elle aussi, elle avait son univers, donc... Mm.
Très bien. Et la dernière question, si tu veux bien, vers quoi vous vous dirigez là maintenant ? Est-ce que c'est un spectacle encore plus total avec l'autre collaborateur auquel vous avez envie de vous associer ? Est-ce que c'est au contraire quelque chose de voilà ? C'est quoi la suite pour vous ?
Je reviendrai un peu à ce que je disais avant par rapport aux contraintes qu'on connaît dans le métier. C'est qu'aujourd'hui, c'était marrant avec les JMF quand on est rentré dans le catalogue, on a eu une réunion et on nous a dit, on voulait d'abord tourner avec notre technicienne, ils nous ont dit, ah, si vous êtes trois, ça va faire beaucoup. Comment ça, trois, c'est pas beaucoup. Ah, vous savez quand même, c'est serré les budgets en ce moment. Bon, ok. Alors on a fait en sorte de pouvoir tourner à deux, ça fonctionne. Mais on préfère tourner à trois. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Et justement, des fois, on se dit, ah, ce serait génial que Firme Hector puisse un peu se libérer plus de leurs instruments. Et que on ait un big band de zombies derrière ou quelque chose qui vienne agrémenter encore la chose et justement là ce serait extraordinaire mais des projets aujourd'hui qui tournent à 8 voilà. C'est assez rare, donc c'est.
Oui, l'idée d'emprunter des musiciens sur place pour avec une répétition préalable tout ça.
Ça aussi c'est pas mal, mais en fait ce dont on s'est rendu compte aussi c'est que c'était toujours le temps de travail, comment on finance ce temps, voilà, c'est toujours ces choses-là, ça implique d'autres contraintes. Et voilà, donc on est aujourd'hui avec. On fait des fois des événements un petit peu pour la sortie de notre livre disque, on a invité des amis à jouer, et voilà, du coup, il y avait la petite sœur qui arrivait. Une petite sœur fantomatique, du coup on a augmenté la famille comme ça et on fait venir des connaissances, mais voilà, sur des temps assez courts. Et voilà. Mais
ça t'intéresserait de creuser cette chose là.
Ce serait super.
Oui, ça se creuse. Ah,
super. Bah, justement, on avait pensé pour le fait de tout public de Firme Hector d'inclure un troisième personnage. Mais voilà, pour l'instant, ça s'est pas encore fait. Et pour le jeune public, on aimerait. Bah, justement, c'est cette logique de jouer en groupe avec encore d'autres musiciens. Et, voilà, ça pourrait être sympa. Et ben, Firme Hector, en fait, maintenant, on a créé une compagnie dans la compagnie, la compagnie Firme Hector. Et en fait, l'idée, c'était aussi d'aller un petit peu ailleurs. Parce que Firme Hector, l'idée, on aimerait bien encore créer un nouveau jeune public dans les années à venir. Pourquoi pas un tout public. Et j'avais envie de travailler avec d'autres personnes. Et justement, le metteur en scène du spectacle, Marco Lotti. Et voilà, du coup, on est en train de créer un spectacle qui s'appelle Les Aventures de Jeff Parel, le dernier iceberg. Voilà, qui va jouer à Momix en février. Et c'est un tout public. Et d'un coup, on nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas pour le jeune public ?
C'est jamais vous qui décidez ça.
Alors, on nous a dit, ah, mais vous ne voulez pas venir jouer à Momix ? Alors, on a dit, ah, ben, pourquoi pas ?
Voilà, si on vous invite à jouer
voilà,
à Momix.
Donc on s'est dit,
vous n'êtes même plus obligé de vous bagarrer pour vous battre pour en être.
C'est marrant. Enfin, il y a plein de salles. Au début, on ne connaissait personne. On est allé voir la seule salle qu'on connaissait qui nous a accueillis en résidence. Et on a invité des professionnels à venir. Il y en a quelques-uns qui sont venus, ça nous a permis d'aller à une autre salle, et voilà, on a marché comme ça. Et maintenant, c'est vrai que c'est des gens qu'on a vus, qui nous ont fait confiance, qui connaissent notre travail, et maintenant, quand on leur envoie un mail, ils nous répondent. Voilà, donc j'ai envoyé un mail.
C'est le principe du réseau.
Voilà, ouais, mais voilà, ça se construit petit à petit.
Ça se construit petit à petit.
Et voilà, et là, c'est, effectivement, il nous a dit ça, je dis, bon, j'avais parlé à Marco, et voilà, lui, il était partant, donc on s'est dit que ça pouvait être aussi... quelque chose d'intéressant.
D'accord.
Voilà.
On donne peut-être une question ou deux dans la salle si besoin. Et puis on va s'arrêter là en te remerciant vraiment d'avoir commenté un peu toute ta trajectoire et autour de ce spectacle en particulier. Et est-ce que vous souhaitez poser encore une question à Guillaume ?
Est-ce qu'il y a d'autres anciens collègues de l'école supérieure de Strasbourg là, qui ont emprunté le même itinéraire ou c'est... Ou peu d'entre vous.
Oui, il y en a quelques-uns justement qui sortent de cette classe de cabaret et celles qui pour moi ont un projet enfin abouti et justement, enfin qui sont arrivés à professionnaliser, on va dire, leur pratique. Ça s'appelle les Cracked Cookies et justement elles ont créé un trio de swing vocal féminin, voilà, qui une version concert, un spectacle qui marche très bien, qui est vraiment dans la lignée de ça. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avant, il y avait un, ils appelaient ça le labo cabaret au conservatoire. Donc, en fait, les musiciens pouvaient venir faire du théâtre devant un public et les comédiens faire de la musique ou chanter. Donc, c'était vraiment voilà, très fragile à chaque fois, mais en même temps, le public était très, très bienveillant. Et en fait, voilà, le labo cabaret s'est arrêté. Et en fait, il y a tout un collectif qui s'est créé pour créer un cabaret en dehors du conservatoire et justement inviter les gens qui le souhaitent à venir s'essayer au théâtre ou à la musique.
C'est super ce training là.
Voilà, mais effectivement ça reste encore plus enfin, amateur dans le sens où justement il n'y a, a pas de rémunération. Mais voilà, il y a plein de petites initiatives, mais c'est comment dire, c'est vraiment un parcours du combattant de monter un projet, d'arriver à professionnaliser un projet. Ça ne tient à pas grand chose. Hein. Quand justement je reprends le parcours du spectacle à Croque-Mort Chanteur, ben justement je disais les JMF, qui nous ont soutenus, mais j'ai croisé il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était au comité de sélection des dossiers, tout au début. Ils nous ont dit, ouais, on était deux là, face à 10 personnes, c'était pas facile. Bon, ils étaient un peu vieux, ils trouvaient pas que c'était... enfin, moi, je dirais, j'espère qu'il n'y en a pas. enfin, voilà, ils n'étaient pas de la même école, on va dire, et ils nous ont dit, ouais, on a eu du mal à faire passer, mais on s'est battu pour vous, et maintenant, franchement, ça nous fait plaisir de vous voir sur scène. Ok, donc on se dit, tiens, il y a deux personnes... Voilà, qui se sont dit, donc ça aurait pu s'arrêter là, hein, je serais pas ici aujourd'hui. Voilà. Donc c'est, des fois, ça tient vraiment à pas grand chose. Quoi. Effectivement, après, on a fait l'audition régionale, on s'est dit, bon, bah, on a fait notre truc, on aurait pu très bien passer à la trappe à ce moment-là. Et ensuite, quand on fait l'audition nationale, il y a une panne technique, et on se dit, oh putain, j'ai la panne technique, quoi, ça nous a aidé. En fait, non, ça nous a plutôt aidé. Voilà, donc c'est vraiment des toutes petites choses à chaque fois qui font que tout d'un coup, on. Mais voilà, le dénominateur commun des projets qui marchent ou qui ne marchent pas, c'est, voilà, il faut quand même travailler, quoi. C'est juste voilà, c'est essayer de faire connaître, voilà. Même si des fois c'est un peu douloureux. Quoi.
Ouais. Merci voilà. Beaucoup encore pour la qualité de tes propos. Merci. Et affaire à suivre.